La pièce fermée. C'était un été, il y a 6 ans. Nous avions loué avec des amis une maison dans les Alpilles, et le Mistral n'a pas arrêté de souffler. La piscine était si froide et si exposée au vent que même les enfants n'y allaient pas. Ils tournaient en rond, regardaient des DVD, s'énervaient pour des riens. On ne sortait que pour faire les courses, et nous aussi, les adultes, on s'énervait pour des riens. On regardait aussi des DVD, mais comme on était sûr qu'il ferait beau, on n'en avait pas emporté beaucoup, et ce n'était pas ceux qu'on aurait voulu voir. Pour ce qui est des activités conviviales, on en était réduit à des jeux de société, alors que personne parmi nous n'aimait les jeux de société. Autrement, on lisait. On lisait beaucoup, mais même les livres, on avait l'impression bizarre que ce n'étaient pas les bons. Si quelqu'un commençait Anna Karénine, c'était avec l'arrière-pensée que Guerre et paix auraient mieux convenu. Bref, c'était des vacances pourries. C'en était presque drôle de constater à quel point elles étaient pourries, comme chaque petit détail contribuait à l'inconfort général. La maison était confortable pourtant, bien aménagée, joliment décorée, prévue pour affronter l'hiver. Il y avait une cheminée, largement assez de chambres, et malgré ça, personne n'arrivait à trouver une place qui lui convenait, un fauteuil ou un canapé où il aurait été bien pour attendre que ça passe, c'est-à-dire que retombe ce vent connu pour rendre fous bêtes et gens. Ce n'était pas du tout une maison biscornue, ni romanesque, ni pleine de recoins inutiles et magiques, ni riche d'un passé mystérieux, mais elle comportait tout de même une pièce interdite. Enfin, interdite, non. Une pièce comme il y en a dans beaucoup de maisons vouées à la location, où le propriétaire entrepose tout ce qu'il estime trop personnel, ou alors trop fragile, pour le laisser à la disposition de ses locataires. Cette pièce en général est verrouillée, en l'occurrence elle ne l'était pas. En nous faisant visiter la maison, le jour de notre arrivée, le propriétaire s'était contenté de dire « c'est là que je range mon barda ». Il avait entrouvert, puis refermé la porte, le temps qu'on aperçoive des piles de cartons, quelques meubles plus ou moins cassés, du matériel électronique hors d'âge, rien de bien intéressant, rien qui vaille d'être mis sous clé. Il n'avait même pas dit « n'y allez pas » d'ailleurs, pas formulé d'interdiction. Il semblait aller de soi que personne ne songerait à y mettre les pieds, et personne, de fait, même des enfants reclus et réduits par le Mistral à tourner en rond comme des mouches, n'a songé de tout le séjour à les y mettre, sauf moi. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je les y ai mis, si je cherchais quelque chose, un outil, un accessoire de cuisine dont j'ai pensé qu'il y avait une petite chance de le trouver là, ou si c'était par simple curiosité désœuvrée. Le fait est que je les y ai mis, que j'ai trouvé au milieu des cartons et du bric-à-brac un fauteuil bancal mais relativement accueillant dans lequel j'ai pris l'habitude de venir m'asseoir de temps à autre. Je refermais la porte derrière moi. Il y avait une petite fenêtre sans volet qui donnait assez de jour pour y voir, y lire si on voulait. Je restais là 10 minutes ou 1 heure, à jouir comme un enfant d'être caché, même si personne ne me cherchait. Et je pense à ce propos que, si à ma connaissance, j'ai durant notre séjour été le seul usager de cette espèce de débarras, c'est parce que les enfants n'étaient plus vraiment des enfants, autrement ils s'y seraient réfugiés, mais des adolescents déjà, sur qui ce genre de magie infime n'agissait plus. Je jure que je n'ai pas fouillé, pas ouvert un carton fermé. Il était, disons, entrouvert, placé juste à l'endroit où les yeux se posaient quand on était assis dans le fauteuil, et par l'entrouverture, si on peut appeler ça comme ça, j'ai vu un très gracieux visage de femme, photographié en noir et blanc. Je vous épargne les détails de mon approche, le prévisible conflit entre curiosité et discrétion, j'en viens au fait. Il y avait dans le carton, en vrac, pas enveloppé, un gros paquet de photos. Ces photos, visiblement récentes, étaient toutes en noir et blanc, les tirages de formats différents, de quoi j'ai déduit qu'ils avaient été réalisés artisanalement, sans doute par le photographe lui-même, ce qui s'accordait bien avec le choix du noir et blanc. Il y avait, sans précaution aucune, une visée qu'on pouvait qualifier d'artistique. Le décor, souvent, mais pas toujours, était ce mât des Alpilles où nous passions l'été. Les modèles, les 4 membres de ce qu'on devinait sans peine être une famille. Un homme jeune, une jeune femme, 2 petites filles. Les 3/4 avaient dû être prises par l'homme jeune, on voyait donc la jeune femme et les petites filles. Le dernier quart par la jeune femme, on voyait alors l'homme jeune et les petites filles. Sur aucune, l'homme jeune et la jeune femme n'apparaissaient ensemble. Jamais, apparemment, il n'avait demandé à une tierce personne de les photographier. Sur beaucoup, ils s'étaient photographiés mutuellement, sans les enfants, au cours de voyages qu'ils avaient dû faire seulement tous les deux dans des pays méditerranéens. Sans risque d'erreur, je dirais dans des îles grecques, en Espagne et en Italie. Ce qui rendait ces photos extraordinairement agréables à regarder, et à vite triompher de mes scrupules, c'est qu'ils étaient beaux et de toute évidence très amoureux l'un de l'autre, de leur petite fille aussi, mais avant tout l'un de l'autre. C'était des photos d'amoureux avant d'être des photos de famille. Je me dis que cette circonstance a triomphé de mes scrupules, c'est vrai. S'ils avaient été moches, renfrognés, si leur vie m'avait paru triste ou leur sourire forcé, j'aurais vite refermé le carton, pensé que non, vraiment, je n'avais pas le droit de surprendre leur intimité. Là, même si ces photos n'avaient rien d'exhibitionniste, je me disais qu'un bonheur si manifeste appelait la présence d'un témoin, et c'était, je l'admets, un peu contradictoire avec le fait qu'un témoin, justement, il n'y en avait jamais, que personne, pas une seule fois, ne les avait photographiés tous les quatre ensemble. Il n'empêche que je me suis arrangé pour penser que ça leur ferait plaisir, s'ils l'apprenaient, qu'un type qu'ils ne connaissaient pas regarde ces photos avec sympathie et se répète « comme ils sont beaux, comme ils ont l'air de s'aimer, comme ils ont l'air heureux ». Par ailleurs, je me demandais ce que foutaient dans un carton, au fond d'un débarras, des photos auxquelles ceux qui figuraient dessus devaient tenir comme à la prunelle de leurs yeux. Moi, à leur place, j'y aurais tenu comme à la prunelle de mes yeux. Je me demandais quel lien ils avaient avec le propriétaire. Je me suis même demandé s'ils n'étaient pas tous morts. J'ai fini par avoir la réponse à ces questions, et elle n'est pas tragique, qu'on se rassure, mais triste, si triste que cela m'ennuie un peu de la rapporter, parce que je ne voudrais pas induire avec d'autres photos dont je vais bientôt parler un parallèle inopportun. Au cours d'un dîner à Paris, l'automne qui a suivi, j'ai raconté ce que je viens de raconter. Les Alpilles, le Mistral, les cartons dans la chambre condamnée et l'espèce de petit roman d'amour que j'ai vécu par images interposées avec ces inconnus si séduisants. Quelqu'un a dit que je devrais en faire une nouvelle, que cela faisait d'ailleurs penser à une nouvelle d'Henry James, et quelqu'un d'autre a demandé comment il s'appelait, ce village des Alpilles. Quand j'ai dit le nom, il n'a pas fallu deux questions de plus à mon interlocuteur. Il les connaissait, ces gens. Il connaissait très bien leur histoire. Un beau couple, oui. Très amoureux de ses enfants. Ils avaient quitté Paris pour s'installer dans ce mas qu'ils louaient à l'année. Pendant 2 ou 3 ans, leur vie avait ressemblé aux rêves qui les avaient poussés à partir. Les amis venaient, on riait sous la treille. Et puis petit à petit, le rêve s'est éterni, les relations dégradées. Tout s'était terminé par une très banale et très douloureuse séparation. Si douloureuse que ça n'était pas tellement étonnant, m'a dit mon interlocuteur, qu'ils aient dans la déroute finale abandonné derrière eux le carton de photos témoignant de leur bonheur. J'ai beaucoup repensé à ces images, à cette histoire, depuis 2 mois que j'ai à la maison les photos d'Ed Alcock. Tous les jours, je passe quelques minutes, parfois plus, à les regarder. Elles exercent une forme d'aimantation, à la fois discrète et tenace, dont à première vue je dirais qu'elle tient à la grâce des modèles, à celle des lieux, et aussi à la totale absence d'hystérie qui s'en dégage. Elles sont paisibles et apaisantes, on se sent bien quand on les regarde. On aurait envie d'être dedans. Quand il me les a montrées, c'est moi qui ai proposé à Ed, s'il en faisait un livre, d'écrire un petit texte pour les accompagner, et je tourne autour de ce texte, comme autour d'elle, sans bien savoir ce que je vais raconter, mais sans m'en inquiéter pour autant. J'essaye d'imaginer quelle histoire me serait venue à l'esprit si je m'étais retrouvé devant elle par hasard, par une sorte d'effraction dans une intimité qui ne me prévoyait pas, et non comme on se trouve devant le travail d'un artiste, s'adressant plus ou moins explicitement à un public. Je les étale sur la table basse, je les inventorie. J'en modifie l'ordre, comme on battrait des cartes, pour voir. Ça ne mène pas bien loin, et quand je les remets en ordre, je me dis que cet ordre est le bon, que c'est probablement, et à de menues transgressions près, l'ordre chronologique. Je les scrute, les décris en m'efforçant à la neutralité, à ne rien projeter dessus, ou au moins, si je projette, à en être conscient. Un premier groupe de photos a été pris dans un endroit qui, d'après un panneau indicateur, doit être une île grecque. Les routes sont caillouteuses, poussiéreuses, on sent la chaleur et aussi le plaisir de se tenir dans cette chaleur. Ça ne doit pas être très touristique, on devine que les ressources hôtelières sont minimales, c'est exactement le genre d'endroit que pour ma part je recherche et où quand je l'ai trouvé, je retourne plusieurs années de suite. Qu'il y ait, comme j'ai envie de le croire, très peu de monde, ou que le photographe ait fait en sorte qu'aucun importun n'entre dans le cadre, la présence humaine se résume à une jeune femme et un petit garçon. On les voit séparément, on les voit ensemble. Le petit garçon regarde la mère, la jeune femme lit un livre d'Emmanuel Bove. Quand ils sont ensemble, leur intimité s'impose avec une tranquillité presque choquante. Il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une mère et son fils. Ce qui est plus énigmatique, c'est la place et le statut du photographe. Est-ce le compagnon de la jeune femme et le père du petit garçon? La réponse est oui, et depuis que je la connais, elle me semble aller de soi, mais en réalité, elle ne va pas de soi. Je n'en étais pas du tout certain quand j'ai vu ces images pour la première fois, et leur caractère envoûtant tient en partie, je pense, à ce qu'elles détaillent une relation dans laquelle le photographe ne semble pas inclus. Il est aussi près qu'on peut l'être de quelqu'un, mais de quelqu'un qui n'est pas observé, et encore moins photographié. On croirait qu'il n'est pas là, et du coup on se demande qui est là, derrière l'appareil. Quelle présence peut, pour les modèles, être assez familière pour pouvoir à ce point s'en faire oublier? Pour qu'ils ne se croient pas obligés de sourire. Ils n'ont pas besoin de le faire pour que ces photos expriment un bonheur édénique et comme inconscient de lui-même. C'est un moment unique dans la relation entre une mère et son enfant, surtout quand cet enfant est un garçon, et dans ce moment-là, le père n'existe plus. Une seconde série, aussi verte, grise et humide que la première est ocre, ensoleillée et sèche, montre un jardin dans une région qu'on peut imaginer être l'Angleterre, la Bretagne ou la Normandie. Ce jardin est clos, resserré autour d'une maison basse et trapue. On y voit une piscine en plastique qui a peut-être servi un peu au retour des vacances en Méditerranée, mais il fait bien trop froid maintenant pour s'y baigner. Fait-il trop froid aussi pour jouer, ou est-ce l'enfant qui s'est déjà lassé de ses fléchettes, de ses armes en plastique, de son seau à l'effigie du héros de Toy Story? Est-il déjà trop grand pour tout cela? En tout cas, on ne le voit pas. On ne voit personne. La maison est sans doute habitée, mais le jardin est vide. Et si on peut le dire au sujet d'un jardin, je dirais qu'il est muet. Troisième série, retour à l'île, à la mer, au soleil. C'est l'été de nouveau, mais c'est l'été suivant. Tout le monde a un an de plus, ce qui à l'âge de la jeune femme est déjà sans conséquence, elle ne changera plus d'un an sur l'autre, mais à l'âge du petit garçon c'est énorme, un an c'est une vie, on n'est plus le même. A-t-il tellement changé cependant? Pas vraiment, pas encore. Il n'est pas encore entré dans l'adolescence, mais ça vient, c'est sans doute pour l'an prochain. Cet été, on le devine, est le dernier de son enfance. Le dernier pendant lequel il pourra être nu devant sa mère, et elle nue devant lui, sans malaise de part et d'autre. Ce sont les derniers feux de ce temps, cet heureux temps, où un garçon n'est qu'à moitié un homme, où ce n'est pas un crime pour les femmes de l'embrasser et de s'en jouer comme d'un éventail. Je traduis de mon mieux, certainement assez mal, le poème d'un auteur inconnu de moi, Winthrop McWord Praed, qu'Ed Alcock a tenu à mettre en exergue de son recueil et qui lui donne son titre énigmatique, Obeldehoy. Plus loin, à la césure entre le glorieux premier été grec et le spongieux automne normand, il place un autre texte, infiniment plus célèbre, l'extrait de la première lettre aux Corinthiens, où saint Paul dit qu'enfant il parlait comme un enfant, sentait comme un enfant, pensait comme un enfant, et puis que, devenu un homme, il a abandonné derrière lui toutes les choses de l'enfance. Disant cela, il est clair que Paul s'en réjouit. Il rend grâce au Christ de n'être plus un enfant mais un adulte, tout comme il lui rend grâce ailleurs d'avoir dépouillé le vieil homme pour devenir un homme nouveau. Ces métamorphoses se recoupent. L'enfant et le vieil homme sont des états qu'il faut dépasser. En cela, Paul est ancien. Contrairement à Jésus, il fait peu de cas de l'enfance. Ces vers paradis ne l'intéressent pas. Plus vite on s'en arrache, plus tôt on entrera dans le royaume. L'auteur d'Obeldehoy, lui, est moderne. Comme Lewis Carroll et tant d'autres, Il considère le temps où on pouvait sans honte être nu et prendre son bain avec sa mère comme un Éden trop tôt, trop vite perdu et l'objet d'une inguérissable nostalgie. En choisissant ces deux citations, je trouve qu'Ed Alcock dit très bien, non pas de quoi il est question dans ses photos de sa femme et de son fils, ça saute aux yeux, elle se passe parfaitement de commentaires, mais dans quelle disposition il les a prises et les regarde. Cette disposition lui permet d'être d'accord à la fois avec Paul et avec Winthrop McQuirt Pred. C'est une bonne chose, pense-t-il, de grandir. C'est une bonne chose que les petits garçons deviennent des hommes et ne restent pas toute leur vie dans les jupes de leur mère ou, comme on le voit sur les plus troublantes de ces images, tout nu contre son corps tout nu aussi. Mais le fait que ce soit une bonne chose, et de le savoir, et de le souhaiter, n'empêche pas d'éprouver cette stupéfaction presque douloureuse qu'éprouvent tous les parents, à moins d'être des brutes, quand ils voient leurs enfants cesser d'être des enfants, s'acheminer vers le temps de la honte, de l'incompréhension, des faux problèmes, des vrais, et derrière tout cela vers la mort. Un père raisonnable veut que son fils emprunte le chemin de l'expérience. Un père sensible voudrait préserver en lui l'innocence. Un bon père, il me semble, est à la fois sensible et raisonnable. C'est la raison en lui qui l'emporte, mais la sensibilité n'abdique pas. Il l'assigne à sa place, mais ne lui dénie pas cette place. Je pense qu'on pourrait dire la même chose d'un bon artiste, et c'est peut-être parce qu'Ed Alcock est à la fois un bon artiste et un bon père que ses photos sont si paisiblement, si sereinement, si, est-ce qu'on peut dire ça, approbativement déchirantes.